Océane. Légende bretonne.
Et de retour aujourd'hui en région de Concarneau. Elle vit au quotidien dans la région et se passionne pour ses mythes et légendes locales. Dorothée de Almeida de retour pour les partager avec nous aujourd'hui. Bonjour Dorothée.
Bonjour Yannick.
Au service patrimoine de l'Office du tourisme de Concarneau à Pont-Aven. Et alors aujourd'hui, Dorothée, vous nous emmenez à Tréguin pour une histoire de roche pas exactement comme les autres, hein, c'est ça?
Tout à fait Yannick. Alors aujourd'hui, moi j'aimerais vous parler des roches tremblantes de Tréguin. Alors pour ceux qui ne connaissent pas Tréguin, c'est une très très belle commune littorale entre Concarneau et Pont-Aven et qui a cette particularité d'offrir de très nombreux chaos granitiques. Et d'ailleurs, le granit de Tréguin, qui était un granit bleu, était très réputé autrefois. Il était exporté sur toute la côte atlantique et où il aurait servi notamment à la construction de phares, de quais et aussi d'autres constructions requérant un granit de très haute qualité, vraiment robuste et durable. Et nos auditeurs, je pense, sont sûrement nombreux à connaître la fameuse roche tremblante du Huelguat. Eh bien, à Tréguin, on ne compte pas moins de 3 roches tremblantes.
Ah, ça tombe bien. On va les passer en revue, ces roches tremblantes, donc, puisqu'elles ont apparemment chacune leur pouvoir magique.
Alors, tout d'abord, on a la roche divinatoire. Alors, cette roche, elle peut vous répondre par oui ou par non. Si vous parvenez à la faire bouger, c'est oui. Si elle ne bouge pas, c'est non. C'est très simple.
D'accord.
On a aussi la pierre de la richesse. Alors là, c'est en se plaçant de façon bien stratégique contre cette pierre qui pèse des tonnes, hein, on parvient à l'ébranler. Et puis, la légende dit que si on parvient par la même occasion à briser un verre de cristal qui est placé sous la pierre, eh bien, celle-ci produirait des écus d'or. Et là, vous devenez millionnaire.
D'accord. Ah ouais, donc, il doit y avoir un paquet de millionnaires du côté de Tréguin. Alors,
bon, je tiens quand même à préciser que moi, j'emmène des visiteurs tous les étés pour faire bouger la pierre dans le cadre d'une visite guidée. Et bon, je travaille toujours à l'office de tourisme. Ah. Vous en conclurez ce que vous voulez. Mais
vous le faites par passion, simplement. C'est peut-être pour ça.
Voilà, c'est la passion. Je casse mon magot. Je n'ai pas encore essayé avec le verre de cristal. Alors, c'est sans doute pour ça que ça n'a pas encore fonctionné pour moi.
Bah oui, sûrement. Bon alors, et il y a une troisième pierre justement.
Et la troisième pierre, alors c'est peut-être la plus célèbre, on l'appelle la Mendogan. Alors les bretonnants auront peut-être compris, c'est la pierre des maris trompés, on l'appelle la pierre des cocus. Cette fois, c'est la fidélité de madame qui est mise à l'épreuve avec cette pierre. Si elle bouge, alors là, pas d'inquiétude. Par contre, si elle ne bouge pas, là, les choses se compliquent un petit peu pour votre couple. Cette pierre, elle est connue de longue date dans les environs. Et au 19e siècle, avec la vogue des bains de mer, la popularité grandissante de la Bretagne, elle avait sa petite réputation parmi les Parisiens en vacances dans les environs de Concarneau. Et on dit même que Gustave Flaubert, le célèbre auteur de Madame Bovary, serait venu tenter sa chance lors de son séjour dans les environs de Concarneau.
D'accord, donc il a voulu la bouger. Il a réussi ou pas à la bouger, cette roche?
En fait, il n'était pas marié, mais il a dû s'inquiéter un petit peu en pensant à sa bonne amie, parce que la pierre n'a pas bougé d'un pouce lors de son essai. Donc, échec total pour Flaubert. Et on sait aussi que les petits Tréguinois, ils avaient trouvé une petite source de revenus grâce à la roche. Ils avaient pris l'habitude de fleurir le sentier qui menait à la Mendogan pour les touristes, de les y emmener et de leur demander quelques piécettes au passage. Mais si un visiteur un petit peu avare gardait la main dans sa poche, et bien tant pis pour lui, les petits garnements, ils se passaient le mot et ils allaient bloquer la pierre avec des cailloux.
Ah, celui qui paye pas devient le mari cocu au final, quoi. Il comprenait que sa femme était infidèle, c'est ça?
Exactement. voilà, alors là c'est le côté cocasse des choses, mais la Mendogan, elle a fait l'objet d'une histoire, ou plutôt d'une légende un peu tragique, c'est celle de Mao et de la douce Corentine. Alors, je vais vous raconter cette histoire terrible.
Ah oui, allons-y.
Mao, c'était un marin qui était fou amoureux de la belle Corentine, mais qui ne savait pas si son amour était payé de retour. Alors en fait, Corentine, elle aussi, elle était très déprise de Mao, mais elle lui avait jamais avoué. Mais avant de faire sa demande en mariage, le jeune homme a décidé de consulter un fameux tailleur de Lanriec, qui est à côté de Concarneau, dont on disait qu'il avait des pouvoirs divinatoires. Alors celui-ci lui dit qu'il y avait un moyen bien simple de connaître les sentiments de la jeune femme. Il lui suffisait de se rendre auprès de la Mendogan par une nuit sans lune et sans étoiles et de tenter de faire bouger la pierre. Si la roche venait à bouger, c'est que Corentine ne l'aimait point. Si elle restait immobile, alors Mao pouvait être assuré de son amour.
Mais alors, par rapport à ce que vous nous avez dit quand même depuis le début, c'est pas exactement comme ça que fonctionne la pierre, c'est quand elle reste immobile plutôt que ses mauvais signes.
Ah bah tout à fait, Yannick, c'est que le sorcier, c'était un filou. Lui aussi, il voulait se marier avec Corentine, mais pas du tout par amour, c'était
Ah,
seulement
d'accord.
pour toucher sa dot. Les femmes recevaient une dot au moment de leur mariage, et Corentine avait une dot de 100 écus. Donc, en l'épousant, il espérait hériter de la fortune de la jeune femme. Et il connaissait les sentiments de Corentine pour Mao. Il voulait tout simplement évincer un concurrent en lui donnant un mauvais conseil.
Ok.
Mais notre pauvre Mao, lui faisait confiance, et par une nuit de nouvelle lune, le voilà qui se rend près de la pierre. Cale contre la roche, il pousse, mais voilà, hélas, que la pierre s'ébranle et notre pauvre Mao, qui se met à croire dur comme fer que Corentine ne l'aime pas. Et de désespoir, il court se noyer dans l'océan. Et on dit que la malheureuse Corentine, qui l'aimait vraiment, en perdit la raison et elle passa le reste de sa vie près de la pierre à se lamenter. Et chaque fois qu'un homme se présentait pour tenter de faire trembler la roche, on dit qu'elle gémissait, allons, ce n'est pas encore celui-là qui pourra délivrer mon pauvre Mao. Et voilà la triste histoire de Mao et de Corentine et de
Aïe,
la même Dogane.
souvent des histoires d'amour qui finissent mal, hein, quand même, que vous nous racontez, ma chère
général.
Dorothée. Mais bon, alors, si on en revient à ces pierres, quand même, vous nous avez donné envie depuis le début, mais elles se trouvent où, alors, ces fameuses roches tremblantes?
Alors, pour votre information, toutes les pierres de Tréguin sont situées sur des terrains privés. La Main Dogane et la pierre divinatoire ne sont malheureusement pas accessibles au public, mais vous pouvez découvrir la pierre de la richesse et peut-être la
Ah.
faire bouger et ainsi faire fortune lors de notre visite guidée Pierre et Légende, qui est donc proposée par l'Office de tourisme de Concarneau à Pont-Aven, tous les jeudis matins en juillet-août au départ du bureau d'information touristique de Tréguin.
Bon, et peut-être qu'on deviendra riche grâce à ça. Donc, je vous le rappelle, tous les jeudis matins en juillet et en août, on vous y retrouve hein, avec tous vos collègues tout au long de l'année. Merci beaucoup, en tout cas, Dorothée de Almeida au service patrimoine, je le rappelle une dernière fois, de l'Office du tourisme de Concarneau à Pont-Aven. À très bientôt.
À très bientôt, Yannick. Très bonne journée à vous.